on fera justement le point après le sujet suivant, puisque c'est aussi une opération qui a été sur l'ensemble des dépenses et l'ensemble des initiatives qui ont été prises. Parce que je crois qu'il faut clarifier les choses entre nous, mais beaucoup, comme je l'ai dit, ne les découvriront pas parce qu'ils les connaissaient. Stock tampon de masques FFP2 et chirurgicaux du conseil départemental 23 avec une participation financière de la commune. Suite au décret du 20 mars 2020, le conseil départemental de la Creuse avait décidé, en concertation avec la région Nouvelle-Aquitaine et les 12 départements, de constituer un stock tampon de masques FFP2, alors c'est les plus sécurisés, si vous voulez, et chirurgicaux affectés, sous l'égide de la délégation départementale de l'ARS. En priorité au centre hospitalier de Guéret, au CH de proximité d'Aubusson, de Bourganeuf, d'Evaux et de la Souterraine, et à l'ensemble des EHPAD, et en cas de besoin, aux professionnels de santé libéraux. À ce titre, le département a sollicité les communes et les intercommunalités afin de savoir si celles-ci seraient prêtes à participer à l'élan de solidarité afin d'aider au mieux les soignants. Et dans quelles conditions les soignants ont démarré? On ne va pas encore en rajouter, mais tout ce qui a été fait est dit, non seulement ils le méritaient, d'ailleurs je crois que certaines fois ça les agaçait un peu, parce qu'ils auraient aimé avoir autre chose que des compliments, mais enfin des compliments, au bout du compte, ça fait quand même un peu plaisir de temps en temps. Nous avons donc donné, évidemment, notre accord de principe pour que les choses aillent vite. Il convient aujourd'hui de confirmer cette décision et il est proposé à notre conseil une participation financière pour la constitution de ce stock tampon géré par l'ARS, pour que les choses soient claires, à hauteur de 5 000 euros. Stock dont nous n'avons pas la gestion nous-mêmes, mais dont nous essayons de la suivre, ce qui n'est pas facile. Je peux même vous dire que dans les premiers temps, il y a eu beaucoup... Alors nous, au niveau de la ville de Guéret, nous avons eu la prudence de commander que des masques chirurgicaux. Parce que on a estimé que c'était ceux qui étaient le plus facilement préservables, et on ne s'est pas trompé. Parce que pour ce qui est des FFP2, ils ont été réquisitionnés par l'État, tout simplement, qui était en panne de masques. Alors quand je dis réquisitionnés, c'est le mot qui fait un peu mal quelque part, mais en tous les cas, l'État a dit c'est moi qui décide, alors que certains maires en avaient pris pour leur propre hôpital, mais on leur a dit non, c'est nous qui avons la main. Et c'est nous qui décidons. Donc je ne vous raconte pas les séances d'audio entre les maires, puisqu'on a eu des séances audio 3 fois par semaine avec la préfecture de la Creuse. Les échanges ont été, et ça ne s'est pas fait que là d'ailleurs, parce qu'à certains endroits, les masques ont été réquisitionnés à l'arrivée de l'avion à certains endroits. Donc comme ils avaient du mal à s'approvisionner, et quand il y avait des masques qui arrivaient, mettez la main dessus. Nous avons non seulement participé à hauteur de 5 000 euros à ce fonds, et je vais vous demander d'approuver cette décision, et nous avons laissé aussi une partie de nos masques chirurgicaux. En disant, j'ai fait faire le calcul à la directrice des services, en disant, quelle est l'urgence pour les salariés de la ville de Guéret ? Afin qu'on ne se trouve pas quand même dans une situation, nos propres salariés, qui avaient eux besoin que de masques chirurgicaux. Très franchement, les masques FFP2, il faut les réserver aux professionnels. On a fait le compte et on en avait pu en avoir. Elle m'a dit, avec 3 000, on va jusqu'au 15 juin, à peu près. Bon, la crise n'est pas finie le 15 juin. Parallèlement, en ce qui me concerne en tant que trésorier national de l'Association des maires de France, je suis à la manœuvre au plan national pour acheter aussi des masques. Masques, donc j'ai joint les communes de la Creuse qui en voulaient. Et c'est une grosse, grosse commande, puisque, entre parenthèses, c'est plusieurs millions d'euros que j'ai engagés, mais avec l'accord du conseil d'administration. Et on en a commandé 9000 supplémentaires pour la ville de Guéret qui vont arriver la semaine prochaine. Donc vous voyez, on ne sera pas le 15 juin, on ne sera pas en panne. Ceux de la MR, c'est des masques qui sont tous à 60 centimes d'euros à peu près, hein, et qui viennent de Chine. Voilà. Rassurez-vous, ils sont en bonne route et ils sont livrés. Alors Saint-Bory en a commandé, Bourganeuf en a commandé, La Souterraine en a commandé, Aubusson en a commandé, Sainte-Ferre en a commandé. Donc j'ai commandé, en dehors de ça, 30 000 masques qui arriveront la semaine prochaine et qu'on dispatchera. Voilà, donc on a notre stock. Mais on a laissé une partie de nos masques chirurgicaux, je vais dire, dans le dialogue, dialogue difficile. Et on en a gardé pour nos personnels et on participe à ce stock tampon. Pour aujourd'hui, le stock tampon est là. Donc s'il y a des difficultés, on aura participé doublement par une subvention et par un don de masque. Je précise qu'au tout début de la crise, on avait retrouvé des masques qu'on avait en stock à China, qui n'étaient pas périmés, contrairement à ce qui s'est dit, parce qu'ils ont été... on a regardé, ils pouvaient être utilisés, et on a donné tout ce qu'on avait à l'hôpital. On a été d'ailleurs les premiers à le faire à ce moment-là. Je ne sais plus combien on en avait, mais on en avait pas mal. Qui était... Alors, on dit, ah, mais vous avez mis un peu de temps. Eh bien, écoutez, moi, je ne savais pas qu'on en avait en stock. Voilà. Ça peut vous paraître bizarre, mais quand la crise a été finie, ces masques ont été rangés, puis redéplacés. Eh bien, le maire que j'étais ignorait qu'il y avait 5000 masques en stock quelque part dans la mairie. Et quelqu'un m'a dit, ouh, je crois bien, monsieur le maire. On y est allé voir, on les a amenés à l'hôpital. Ça a permis tout de suite de les faire souffler. Et donc, on a agi trois fois, finalement. Hein, par un don, par ce stock tampon, et par le fait que l'ARS nous a pris une partie de nos masques chirurgicaux. Évidemment, on paiera que ceux qu'on aura pris, qu'on aura eu, ou quand même. On paiera 5000 plus les 3000 masques, on paiera quand même pas les autres. Hein. Ça nous semble la moindre des choses. Voilà. Voilà cette situation. Et aujourd'hui, alors peut-être que ça a inspiré des réflexions de votre part, il faut voter ce principe des 5000 euros de participation pour ce que l'ARS, ce que le conseil départemental, avec l'accord des régions, de là notre région et des départements, partout ça s'est passé comme ça. Constitution de stock tampons. Géré par l'Agence régionale de santé. Alors, contrôlé avec beaucoup d'intention, je dois le dire, par la présidente du conseil départemental, qui s'est beaucoup battue sur ce dossier, qui a fait preuve de beaucoup d'énergie. Moi, j'ai expliqué à quelques-uns que ce n'était pas la peine de dépenser d'énergie d'une manière abusive quand on était sûr du résultat. Mais je ne me suis pas trompé, le résultat a été ce qu'on attendait. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des observations? Alors, c'est vrai qu'il a fallu le faire tout de suite, mais à partir du moment où la région était pilote, que les 12 départements et que de la région étaient d'accord, il fallait que des villes comme Guéret, alors je ne sais pas si en Creuse, au plus souvent, on participait, enfin il y en a eu quelques autres, mais là, pas toutes les communes de Creuse, très honnêtement. Éric Correa. Ou David, pardon, oui.
Oui, non, la réflexion que à laquelle ça m'amène, c'est qu'on a, donc bien sûr, vous avez eu raison, dans les trois autres cas, de donner ce qu'il y avait, et évidemment de parer au plus urgent pour permettre à nos soignants d'affronter la crise, soulignant par ailleurs du coup l'impréparation dans laquelle on les avait placés, puisqu'ils dépendaient, entre guillemets, de toutes ces bonnes œuvres, sans être certains au moment où ils l'affrontaient qu'elles existaient. Donc c'est vrai qu'on a, heureusement qu'elles sont là, heureusement qu'après ça s'est structuré. Non, la réflexion, c'est toujours dans le fil conducteur de nos interventions liminaires, c'est de se dire... On a un mode d'économie libérale qui n'aime pas les stocks, qui prône le flux tendu jusque dans la gestion des politiques publiques. Prévoir, protéger, c'est stocker aussi. Et on a pu voir à travers les débats autour de Roselyne Bachelot et autres que finalement il avait été décidé sur un moment de crise de protéger et de stocker, et que la crise passée, on avait détruit les stocks et on les avait enlevés. Aujourd'hui, la crise est arrivée. Alors, le président a eu le culot monstre de dire que nous n'avions pas connu de problème de masques, qu'il fallait quand même l'oser. Il l'a osé, il ose tout, c'est très bien. Mais bon, voilà, c'est pour. Je voulais pas laisser passer ce sujet pour dire que là aussi, une autre façon de penser la vie politique doit nous conduire à ne pas négliger les stocks de prévention et de protection des populations.
Merci, M. Correa.
Oui, pareil dans le même sens. Je ne sais pas s'il faut qu'on refasse toute l'histoire des stocks et de l'absence effectivement de prévention et de prévision du gouvernement. On peut toujours râler qu'une obligation de l'État n'a pas été effectivement mise en œuvre et que les collectivités se sont montrées solidaires, et que par contre, dès que les collectivités ont acheté, l'État s'octroie le droit d'organiser la distribution. Je rappelle quand même la bataille qu'il y a eu entre le préfet de région, la préfète de région et le président de région à un moment donné, parce qu'elle voulait tout réquisitionner. Donc ça a été compliqué à l'échelle de la région, à l'échelle des départements et après à l'échelle des collectivités. Donc en ce qui concerne l'agglomération, nous avions aussi un stock de masques que nous avons donné au début aux ambulanciers, vous voyez, parce que les ambulanciers n'avaient pas la possibilité aussi de s'équiper rapidement. Donc, et nous en avons aussi acheté à la fois masques chirurgicaux et FFP2 de la même manière, mais nous avons pu en garder une partie, récupérer une partie FFP2 pour les personnels de la crèche qui ont toujours effectivement continué à travailler pendant cette période-là et qui pouvaient être amenés à être exposés là pour le coup et avaient besoin de masques FFP2.
Oui.
Voilà, donc, mais en tous les cas, effectivement, nous aurons certainement la même démarche a été effectuée en solidarité sur la traçabilité, où vont les masques, effectivement. Je ne doute pas qu'on puisse le savoir à un moment donné. Mais voilà, en tous les cas, heureusement que les collectivités et en local sont là à un moment donné pour parer aux urgences.
Qu'est-ce que quelqu'un cause là ou quelqu'un téléphone ou fait quoi là? Oui, M. Thomas.
Oui, je voulais juste rebondir sur un des propos de M. Giboulot, qui déplorait que l'entreprise libérale diminue beaucoup les stocks et travaille en flux tendu. Alors, pour deux raisons déjà. La première, c'est que l'argent qui dort, ben, ça plaît à personne, ça rapporte pas. Et puis, deuxièmement, le stock aujourd'hui, eh bien, il est imposé. C'est-à-dire que c'est la fiscalité aussi qui oblige les entreprises à ne plus stocker de matériaux parce que l'argent, ce stock-là, il est imposable. Et donc, là, pour le coup, ce n'est pas l'entreprise qui choisit, c'est bien ceux qui décident du taux d'imposition.
Merci, M. Thomas. Pas d'autres... Donc, le sujet, c'est... approuver la participation au stock à hauteur de 5 000 euros pour qu'on puisse les verser tout ça. Donc j'interroge à nouveau par vote. Je regarde l'écran pour voir si j'ai oublié personne. Non. Madame Bonin-Germant.
Pour.
Monsieur Boilly.
Pour.
Monsieur Bourguignon.
Pour.
Monsieur Sidel.
Pour.
Madame Chagnon.
Pour.
Monsieur Correa.
Pour.
Monsieur Damien.
Pour.
Monsieur Gipoulou.
Pour.
Madame Hippolyte.
Pour.
Monsieur Jarroir.
Pour.
Monsieur Malouvrier. Madame Pradignac, ça arrive, Eric, ça arrive. Monsieur Thomas.
Pour.
Michel Vernier, pour. Monsieur Vernier.
Pour.
Madame Vincent.
Pour.
Madame Cassier.
Pour.
Madame Charles d'Avoine. Et Monsieur Véran, pour. Madame Dubocard.
Pour.
Madame Durand-Prudent.
Pour.
Monsieur Dussault. Monsieur Guignard.
Pour.
Madame Lemaigre.
Pour.
Monsieur Falipou.
Pour.
Madame Martial. Robert.
Pour. Pour.
Anissa Marly.
Pour.
Très bien. Merci, mes chers amis. Alors, je vais demander à Serge Chédel, puisque, vous savez, dans les moments difficiles, il faut garder son calme, son sang-froid, ne pas écouter les scories, ne pas lire les réseaux sociaux et agir. Dans le cadre, évidemment, des prérogatives que l'on a, tout en se disant qu'une décision ne peut être prise seule que dans l'extrême urgence, et quand il faut le faire, je le fais. Mais nous avons à faire le compte. J'ai conseillé au maire de la Creuse, en tant que président de l'association des maires adjoints de la Creuse et président de communautés, d'ensemble des communautés, des communautés de communes et d'agglo, conseiller de faire un budget annexe Covid. Parce que l'association des maires de France réclame à l'État, évidemment, le remboursement de cette dépense inattendue, et vous allez voir qu'elle n'est pas neutre, qui n'était pas prévue dans leur budget, et qui va amener des difficultés budgétaires, invariablement. Alors l'État dépense des milliards, des milliards. Évidemment, la dette augmente, augmente et augmente, mais nous, on ne peut pas faire ça. Nous, déjà, on n'emprunte pas pour le fonctionnement. Donc ça, tout le monde le sait, c'est une règle de base. Par contre, les dépenses arrivent. J'ai demandé à Serge Chenel et à Bruno Martins de faire un récapitulatif très précis de ce que coûte aujourd'hui le Covid à la ville de Guéret. La Covid, pardon, à la ville de Guéret. Parce qu'il y a des dépenses supplémentaires, mais il y a aussi des pertes de recettes. Et donc Serge va vous présenter ce tableau, ces comptes très précis qu'ils ont finalisés en début d'après-midi et que nous allons regarder ensemble. Alors, Monsieur Sénel, Serge, je te laisse le présenter et moi je reviendrai après sur un certain nombre d'autres mesures.
Merci.
Bien sûr, je vous redonnerai la parole.
Merci. Effectivement, on a essayé de regarder l'impact financier donc du Covid-19 en ayant, comme l'a dit Michel, essayé de construire un tableau financier pour pouvoir le suivre et pouvoir expliquer. Alors on a eu, ça évolue tous les jours, hein, vous avez lu, écouté, il y a 3-4 jours, la ministre chargée des collectivités locales, alors que l'AMF et beaucoup de maires demandaient à l'État de participer, de venir en aide aux communes, la secrétaire d'État a déclaré aux journalistes un matin, avec un journaliste bien connu, qui va des fois vite en voiture, qui a plus son permis. Donc, elle avait une certitude, l'État ne baisserait pas les dotations. Oh, alors, on était soulagés, nous on demandait d'avoir plus d'argent. Ouf, une grande nouvelle, il semblerait qu'on n'en ait pas moins. Bon, ça c'était il y a 4-5 jours. Et puis hier, le Premier ministre, s'apercevant certainement qu'il y avait quelque chose là qui n'allait pas, a annoncé qu'il y avait un fonds destiné aux collectivités locales de 750 millions d'euros. Donc on va voir là aussi les conditions, parce qu'il faut attendre, il faut se méfier. Voilà. Donc nous, on a, comme l'a expliqué le maire, on a travaillé sur ce sujet-là. Alors il y a 3 grands chapitres. Il y a les dépenses annulées, il y a les recettes annulées. Alors il y a des fois, quand il y a des dépenses annulées, il y a automatiquement des recettes annulées, mais ce n'est pas toujours le cas. On peut avoir des recettes annulées sans dépenses annulées. Et puis il y a les dépenses nouvelles. Donc on aura des chiffres un peu plus précis. Là c'est une situation avec des mesures connues ce jour, mais je vais vous en expliquer une ou deux où il y a encore des points d'interrogation. Et je vous donnerai le total au bout. Dans les dépenses annulées, on sait que la saison culturelle... les salles ayant été fermées, on aura des dépenses en moins par rapport à ce que l'on avait prévu. On sait que les expos d'été ont été annulés, donc on sait qu'on aura des dépenses en moins. Le feu d'artifice de la Trinité n'ayant pas lieu, le feu d'artifice n'aura pas lieu non plus, donc on économise le coût du feu d'artifice. Les subventions que l'on avait mis en réserve pour des événements particuliers, l'aide aux associations, sur des choses non pas répétitives, mais sur des événements sportifs particuliers qui ont été annulés aussi, eh bien, ces subventions exceptionnelles ne seront pas versées non plus.
Donc ça, c'est à peu près 160 000 de dépenses annulées dans le secteur culturel et sportif. Mais il y avait aussi des recettes. Comme on n'a pas fait de saison culturelle, on n'a pas de recettes sur la saison culturelle, ni sur les activités socio-culturelles, ni sur l'allocation de salles à des associations, ni sur l'allocation de salles à l'espace André Lejeune.
Ni sur les rentrées de piscine.
Ni sur les rentrées de piscine. Avec les rentrées de piscine, c'est une perte à estimer aujourd'hui à fin juin, parce que même si ça peut rouvrir en n'ayant que 14 personnes dans la piscine, ça ne va pas faire beaucoup d'entrées, c'est 66 000 euros, simplement la piscine. C'est une perte de recettes avec les lignes, l'allocation de lignes, c'est 66 000 euros. À l'IR, notre institut là-haut, la baisse de fréquentation et l'allocation, 35 000 euros. Le cinéma, la redevance qu'on a passée tout à l'heure, on vous a dit qu'on avait annulé du 12 mars à la fin de l'année, c'est plus de 15 000 euros. Sur la Trinité, on a dit tout à l'heure qu'elle était annulée, mais la Trinité, les forains, ils nous payaient un droit de place, 21 000 euros. La gratuité des foires et marchés, c'est plus de 4 000 euros.
C'est la redevance des commerçants.
La redevance des commerçants non sédentaires. Les gratuités des terrasses, on en a parlé tout à l'heure, 12 000 euros.
Gratuité des terrasses pour l'année.
Pour l'année. Gratuité du stationnement payant de mars à fin mai, c'est à peu près 19 000 euros. D'ailleurs, les avances plus les horodateurs. La redevance du camping du Courtil, on l'a vu tout à l'heure, c'est 2 000 euros. Donc tout ça, c'est en moins. Alors là, il n'y a pas de dépenses annulées, c'est que des recettes annulées. Après, on a des dépenses nouvelles. Donc, il y a des gens qui, sur les activités socio-culturelles, avaient acheté des places à l'année. Et comme les spectacles ont été annulés, il va falloir rembourser au prorata du non consommé. Il y en a pour 4 000 euros. Les intermittents du spectacle, on a décidé aussi des gens sans ressources. On parlait de cas particuliers tout à l'heure. Voilà ça. Donc nous, on a décidé de les soutenir et de maintenir leur activité. Alors, ce n'est pas une subvention parce qu'ils vont faire du travail effectif. Mais ça va coûter 10 000 euros de plus. La surcoût de la surveillance de Courtil, qu'on va peut-être mettre en place, c'est pratiquement 10 000 euros de plus. Les gants, les blouses, le plexiglas, les solutions, les produits d'entretien supplémentaires, pour nos personnels, 30 000 euros. Les masques chirurgicaux pour nos personnels tout le temps, pratiquement 15 000 euros avec ceux de l'AMF. Ensuite, c'est pas fini. Les dépenses annulées, comme on a un peu moins roulé, vous voyez qu'on a on a essayé de cerner l'ensemble des items. Nos services ont moins tourné, donc on a fait une économie de carburant estimée à 10 000 euros, ainsi que des pièces mécaniques, et puis la piscine étant fermée,
ça va pas durer longtemps,
moins de chauffage, moins de choses, on a évalué, c'est pas des chiffres en l'air, c'est des chiffres vus avec les services intéressés, donc là, tout ça, les carburants, les pièces et les fluides, c'est un peu plus de 30 000 de dépenses annulées, et là, il n'y a pas de recettes annulées. Sur la cuisine centrale, les écoles fermées, moins de production à la cuisine, moins d'achats de denrées alimentaires, moins 56 000 euros. Mais les tickets de cantine, on ne les a pas vendus non plus. Donc les tickets de cantine, moins 88 000 euros. Les tickets sport, pareil, 2 500 euros. Les idées vacances, pratiquement 1 000 euros. Alors là, il y a des recettes annulées et des dépenses annulées. Le transport pédagogique, plus de transport. Le transport assuré par l'agglo pour nos scolaires, normalement, il y aura un trimestre de compter en moins. Donc là, on fait des moindres dépenses, des dépenses annulées pour à peu près 12 000 euros. Sur les masques pour les habitants, donc les masques nous ont coûté 3,16 euros pour un masque et on a une subvention d'un euro par l'État. Donc il nous coûte 2,16 euros, on a acheté 13 000, ça fait 28 145 de dépenses nettes. La participation du conseil départemental qu'on vient de voir, 5 000. L'aide au loyer, sauf ton commerce et tout, avec les aménagements qu'on est amené à faire sur les terrasses et tout, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est estimé là aussi. On avait un crédit, donc c'est neutre. Et puis, les 30 000 qu'on a décidé tout à l'heure sur le principe pour l'agglo. Aujourd'hui, quand on regarde les dépenses annulées, les recettes annulées et les dépenses nouvelles, le delta, c'est un chiffre négatif aux alentours de 220 000 euros à ce jour. 220 000 euros à ce jour. On a encore des incertitudes. On attend des textes par rapport au personnel. On a déjà des écrits de concessionnaires, enfin de gens à qui, par exemple, les publicitaires, qui ont les panneaux, qui ont les affichages, eh bien, ils sont en train de faire jouer, l'aspect juridique de leur contrat, et ils vont avoir gain de cause. Donc ça, pendant la période de crise sanitaire, c'est-à-dire du 17 mars au 10 juillet, c'est-à-dire 4 mois et demi, ils vont pouvoir nous demander une baisse de la participation. On va voir, mais c'est 20 000 euros en jeu. C'est 20 000 euros. Donc vous voyez, on est à peu près sûr d'arriver à un delta à ce jour, autour de 250 000 euros de surcoût, enfin de coût supplémentaire pour la ville de Guéret. 250 000 euros. Je rappelle qu'un point d'impôt, c'est un peu plus de 80 000 euros, c'est-à-dire 3 points d'impôt. 3 points, la valeur de 3
c'est
points
d'impôt.
C'est
une comparaison.
C'est une comparaison.
Le budget est voté, donc voilà. Il faudra trouver ailleurs.
Voilà, donc il va falloir trouver ailleurs. C'est pour ça qu'on est en train d'affiner. On va voir, parce que on va voir comment ça reprend le scolaire. Est-ce que ça va évoluer? Est-ce qu'on aura beaucoup de repas au mois de juin? Est-ce que la piscine, on aura des entrées au mois de juin? Est-ce que hier, on aura encore des tours? Ben bref, là, c'est une situation à aujourd'hui. Donc, ce qui nous sera affiné, et on aura un état détaillé qui sera remis, on aura une décision modificative qui ne comportera pas que le Covid, mais quand on présentera la décision modificative au prochain conseil municipal de juin, on vous fera en même temps une sous-DM, ben, qui sera inclus dans la DM, mais un état détaillé des plus et des moins, tel que je viens de vous embrosser les grandes lignes.
Voilà. Donc ça, c'est le point financier. Donc nous, on a nos comptes, ils sont précis, et bien entendu, notre démarche, qui est celle de l'Association des maires de France en direction du gouvernement, ça sera de dire, voilà ce que ça nous coûte. Vous avez fait pour les entreprises, vous avez raison. Il fallait les aider. Vous avez agi pour l'emploi, vous avez raison. Enfin, pour l'emploi, notamment avec le chômage partiel et tout, vous avez raison. Qu'est-ce que vous faites pour les collectivités territoriales? Parce que je disais hier aux gens de la CGPME, et je vais vous dire un mot de ce qui va se passer sur la place Bognot et dans la Grande Rue et sur la place du Marché, je disais hier... La collectivité est aussi une entreprise à sa façon. Elle n'est pas, Jean-François, elle n'a pas une obligation de résultat comme les entreprises, mais elle doit payer ses personnels. Et quand le déficit se creuse, c'est de l'investissement en moins ou c'est des choses et ça rejaillit sur les entreprises. Enfin, voilà. Donc, on avait voté le budget. Les entreprises, on a pu signer les travaux pour les entreprises qui étaient prêtes à partir, et nous avons permis aux entreprises de travailler. Là aussi, le travail a été fait, il a été minutieux, il a été précis. On a repris sur la mairie, on a repris sur le musée. Enfin, Serge lui dira s'il y a des choses que j'ai oubliées. Et je le disais à M. Picard, qui me parlait de la halle de jardinage où les gens des entreprises pouvaient déjeuner le midi, en toute sécurité, nous, toutes les entreprises de Guéret, toutes, sont venues nous voir pour nous dire comment on fait pour le repas de midi. Et pour toutes les entreprises, on a trouvé une solution gratuite, pour toutes. En donnant des salles, en ouvrant des locaux, en permettant à ces gens qui travaillaient dans les entreprises de pouvoir déjeuner le midi. On leur a même donné quelques tuyaux pour qu'ils aient des repas. Bon, mais la cuisine centrale ne pouvait pas le faire. Mais on a été présent sur l'accompagnement à la reprise du travail. Et donc, autant que dans la halle de jardin. Je dis ça avec un peu d'humour, parce que j'ai vu la photo sur le journal et j'ai vu qui était sur la photo. Donc, voilà. Donc, ça a été quelque chose qu'on a fait tout de suite. On ne se pose pas la question. Par contre, on a aussi, je vais aussi signer la convention avec la Fédération du bâtiment, mais on a parlé aussi avec Serge Chenel, j'ai indiqué que dans cette convention, il va y avoir un surcoût des entreprises. Les entreprises vont avoir un surcoût Covid. Un surcoût certain. Que il ne fallait pas que ce soit les collectivités seules qui supportent le surcoût Covid. Autrement dit, ça veut dire quoi? Les entreprises pourraient nous dire, voilà, le marché, on l'a signé à temps, le coût Covid, il est de temps, ça vous fait tant à donner de plus. Moi, j'ai demandé que soit inclus, pour que je la signe dans cette convention, l'idée d'une négociation entre l'entreprise et la collectivité. Parce que sinon, on peut nous aussi faire payer la salle où on mange, on peut... Enfin, voilà. Donc, c'est pas de l'anti-entreprise, c'est du partenariat. Et les entreprises ont très bien compris ça, en disant, d'accord, il y a des surcoûts, mais on discute avec vous pour voir ce qui se passe dans ces cas-là. Mais en tous les cas, nous, les travaux avancent. Et les travaux avancent partout. Et ça, c'est l'intérêt d'avoir voté le budget. Donc, on a fait ça et on est très content de l'avoir fait. Le bureau municipal avait décidé, il y a 15 jours, de reconduire la place en terrasse. À l'unanimité d'ailleurs de ceux qui sont venus. Et il avait décidé en plus de dire la place en terrasse, il faut lui donner. Alors la place en terrasse, c'est la place Bonnot, mais ça peut aller jusqu'en bas. Hein. Il faut lui donner une coloration écologique et économique. Enfin, paysagiste, allez, on va prendre plein de grands mots, paysager et économique. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'on savait qu'un certain nombre de structures allaient réouvrir et probablement. Alors les commerces, on savait. Mais les hôtels, les restaurants et les bars, on ne savait pas comment ça allait se passer. On se doutait qu'ils allaient ouvrir, mais on se doutait que comme nous dans les écoles, comme nous à la piscine, comme nous dans plein d'endroits, ils allaient avoir un protocole qui allait être exigeant. Et qu'il fallait qu'on soit là pour répondre pour tout ce qui était sorti hors des murs. On sera partenaire pour que vous puissiez installer des terrasses sur la voie publique, sur la place Bonnot, sur la place du marché. On sera là, on répondra présent, mais ce projet, on le monte ensemble. Et donc, nous avons eu... Donc ça, c'est le bureau municipal qui a décidé de ça. Place Bonnot, qui soit un point agréable, mais qui aide à cette reprise du commerce. Après, c'est chose très compliquée, parce que quand vous dites... Un restaurateur de la place, ils étaient là hier. Quand vous dites à un restaurateur de la place, vous rouvrez votre restaurant, mais vous aviez 30, vous pouviez mettre 30 couverts, dans du grand jus par exemple, 30 couverts, mais vous en mettrez plus que 12. Il faut payer le personnel, la recette n'est plus la même. Donc, nous avons travaillé avec eux, avec le cabaret creusois, avec, enfin, avec tous ceux qui ont voulu venir, nous les avons tous invités. Pascal Germain était là, la manager de centre-ville était là, M. Micard était là, M. Tissier était là, le président de la Chambre était là aussi. Et nous avons décidé de dire, voilà, nous, on prend en charge l'aménagement de l'espace et des structures, si vous en avez besoin. Des chapiteaux, je ne sais pas, tout ce qu'on peut inventer pour pouvoir que l'activité puisse se développer. On va avoir des propositions diverses. Certains nous disent, moi, si vous pouviez condamner une voie de circulation et aménager la circulation autrement, je pense au cabas de besoin. Hein. On n'est pas entre nous, mais c'est pas secret. Nous laisser la voie de circulation devant chez moi pour que je puisse sortir des tables, ça irait mieux. Et moi, mais tout le monde a été d'accord. J'ai dit, écoutez, la voie de circulation a été fermée pendant 3 mois pour refaire une toiture. Quand il y avait eu l'incendie, on a organisé la circulation autrement, tout le monde a râlé au début et puis tout le monde s'est adapté après. Donc on lui a dit, ok, si c'est ça la solution. Grand Café a dit, est-ce que moi ça peut être, pas être pareil? On regarde. Le moderne a plutôt dit, moi je veux une structure qui me permette de l'autre côté de la place. Et en se disant, est-ce qu'on n'a pas aussi une structure qui permet, par exemple, quand il y a le marché, de dire les gens vont acheter des produits au marché et ils déjeunent sur place. Ce qui peut aussi dynamiser. Et puis, ils ont dit, eux, ah, mais on pourrait travailler sur les plans à emporter. Très bonne idée, parce que du coup, la personne va chercher le plan à emporter restaurant, elle le prend, elle vient s'installer là où il y a la table et elle mange là. Donc, nous avons décidé de finaliser peut-être, il faudra un tout petit peu plus de temps, mais on a décidé, et que la place en terrasse, c'était pas le 1er juillet, c'était tout de suite. C'était tout de suite. Alors, les aménagements paysagers, on les fera après. On va d'abord installer des structures. Alors, ils m'ont demandé de mettre un chapiteau au milieu de la place Bognon, type halle et tout. J'ai dit non. Et j'ai dit non. Pourquoi ? J'ai tenu le marché ouvert. Ça n'a pas été unanime. Je n'ai pas lâché. J'y ai passé des heures et des heures sur ce marché. J'ai contrôlé, j'ai aidé. J'ai aidé les personnels de la mairie. Alors, ça n'a pas plu à tout le monde que je me montre. Eh bien, tant pis. Eh bien, tant pis. C'est pas grave. En tous les cas, j'ai demandé à ce qu'on réorganise, que tout le monde remonte place Bognon, parce qu'on ne pouvait pas contrôler et la place du marché et la place Bognon. Quand les commerçants hors alimentaires sont revenus, il fallait les intégrer. Ils ont accepté de descendre sur une voie devant la mairie. C'était la seule qu'on dit. Et puis, il fallait ça pour garder les espacements, garder la distanciation et tout. Je ne veux plus les perturber. Je dis quand je ne veux plus, au moins jusqu'à la mi-juillet. Après, si d'autres sont là, ont d'autres idées. En tous les cas, j'ai travaillé avec le président du marché et nous sommes mis d'accord. Donc, on ne va pas aller coller un chapiteau au milieu de la place Bougnot qui empêchera le marché de fonctionner et qui sera vide tout le restant de la semaine. Donc, on va aménager tout le haut un peu plus parce qu'il n'y aura pas sur la place en terrasse, il n'y aura pas le VTT comme l'année dernière. Donc, ça nous laisse un peu plus de place. Mais on va essayer de penser à ce qui est un peu pour les familles, des tables à côté de ces structures, enfin quelque chose qui soit agréable à vivre. Les équipes de la mairie sont derrière moi, derrière nous. Nous l'avons décidé et nous allons le faire tout de suite. Et je n'ai pas besoin qu'on me dise de le faire, puisque c'était déjà décidé avant. Et donc, c'est parti, ça avance, mardi à 16h, je crois. Alors, je précise aussi que j'avais dit au dernier bureau municipal, il suffit de lire les comptes rendus, que ceux qui voulaient se joindre, enfin ceux qui étaient à l'écran et qui étaient là, que ceux qui voulaient se joindre à la réunion pouvaient le faire, pouvaient venir, qu'il n'y avait pas de soucis. Serge est venu avec moi, comme ça il peut témoigner de ce que je dis au mot près, parce que c'est très important d'être précis. S'il y avait eu quelqu'un d'autre en plus, c'était bienvenu. Pardon Jean-François, je ne t'ai pas prévenu, mais je vais te dire, ça s'est fait. Parce que nous, on avait décidé ça, et la CGPME a pris contact avec moi. Alors quand M. Micard m'a appelé, je lui ai dit, ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on a décidé de faire. Mais venez nous aider à le faire. Il faut que tout le monde dans cette affaire mouille la chemise, quoi, donne son avis. Donc voilà, on en est là. Alors, on a des demandes place du marché, notamment pour côté millésime. Ils veulent installer au bout de la place du marché, c'est pareil, ils veulent deux places de parking pour pouvoir sortir des choses. Ok, on le fait. Le pub Rochefort nous a dit, je veux mettre une terrasse le midi. Donc, monsieur le maire, il faut me fermer la rue de la Rampe. Je veux une terrasse le midi, je veux une terrasse ce soir, ok. Alors bon, on va pas avoir que des amis, mais le cinéma, pour l'instant, n'était pas ouvert. Si le cinéma rouvre, il faudra peut-être se poser le problème autrement. Donc voilà, c'est des choses qu'on a mis en place. Le Barry Lyndon a déjà fait sa demande pour la rue de Paris, ok. Donc pour l'ensemble des commerçants, la réponse a été oui. Ça a été oui sur le principe. Et après, on regarde. Et nos équipes, y compris d'ailleurs, pour ceux qui avaient des drives. On n'y arrive pas. Enfin, un appel de McDo en disant on veut des barrières. Oui. On a aidé les Restos du Cœur récemment parce que la queue, mes amis, cette crise, elle a engendré une misère terrible. Terrible. Il y avait des queues pour l'accès aux Restos du Cœur le vendredi qui allaient jusqu'au milieu de la place du marché. Donc il y a des gens qui ont trouvé le moyen de se plaindre, qu'il y avait des gens qui étaient trop près les uns des autres, on est allé installer un cheminement pour permettre que les gens ne soient pas... Alors c'est encore pas parfait, on m'a dit, mais je ne vois pas bien. En tous les cas, on a plutôt orienté vers sous la protection de l'église, derrière l'église, pour que ça ne gêne pas les bonnes gens sur la place du marché. Mais voilà, on a dit, on a fait. Et dans cette affaire-là, moi je ne réfléchis pas au moment où on le fait, je réfléchis à la nécessité de le faire, je questionne, je le dis, j'informe, on fait. Point. Et après, que disent ceux qui veulent dire, je peux vous dire que je suis vacciné, hélas pas contre le Covid, mais pour le reste, je suis vacciné. Donc, je suis heureux d'avoir maintenu le marché. Alors, pour la gratuité des parkings, ben, c'était simple. Confinement, pas de voiture, beaucoup de places de stationnement, pourquoi faire payer ? La question va se reposer fin juin, et peut-être avant. Et peut-être avant. Parce que se reposera l'éternel problème. J'ai fait le tour des commerçants, tous. Tous. De la Grand Rue, de la rue de l'ancienne mairie, et de la place du marché. Pour leur dire, quel est votre sentiment ? D'abord, ils étaient très contents. Je n'ai pas toujours été très bien reçu, mais c'est pas grave. Pas le problème.
Mais
comment ça ? Non ! Après l'ouverture. Oui. Non, non, j'ai fait le tour après l'ouverture. Je suis allé les voir tous, sans exception. L'accueil n'a pas toujours été le même. C'est pas grave, je n'ai pas peur de ça. C'est très intéressant, il ressort des idées qu'il faudra creuser sur ce problème de stationnement, de choses comme ça. Mais en tous les cas, voilà quelle est la situation. Donc moi, je voulais vous le dire, je suis prêt à débattre avec vous des mesures qui ont été prises, mais à chaque fois, je ne l'ai pas fait tout seul. À chaque fois, il y a eu la possibilité de se renseigner et de le faire avec moi. Et je ne regrette rien. Voilà ce que je voulais vous dire d'une manière un peu passionnée, et je terminerai. Je vais vous donner la parole, mais en vous disant mon mot sur cette crise que je n'ai pas encore donnée. Je trouve que d'un seul coup, on pense que tout est fini. Un sentiment de libération. J'entends des gens me dire, c'est la quille. Enfin, il y a eu encore 3 cas positifs à Guéret la semaine dernière. Et il y a eu des cas positifs, notamment pas loin de nous. On a même eu très peur pour un personnel de la mairie. Rassurez-vous, il n'est pas positif, il est négatif. Mais on a eu très peur, parce qu'il y avait une école en jeu. Bon, contrôle immédiat, mise en quarantaine, test, négatif. Ouf. Problème au SIAD. Tous les personnels ont été testés. D'accord. Malheureusement positif. Il y a eu, on a pratiqué à l'isolement d'un jeune de 22 ans, Charles de Gaulle, qui vit dans une famille de 5 personnes, qu'on a logé. Il fallait le loger tout de suite. Parce qu'ils n'ont pas mis à l'île. L'État n'a pas mis à l'hôtel. L'État a appelé le maire de Guéret en disant débrouillez-vous. Ça tombe bien, le CCAS, qui a fait un travail formidable, avait un logement d'urgence à Corty. Donc ce jeune est toujours là pendant 14 jours. Et on espère que les autres membres de la famille avec qui il vivait, qui ont été testés, ne sont pas positifs. Mais la crise n'est pas finie. Le virus n'est pas parti. Il s'est peut-être atténué. Moi, j'essaye d'écouter les scientifiques parce que j'écoute toujours les gens plus intelligents que moi. En tous les cas, je crois qu'il faut continuer à être prudent et responsable. Je sais que cette période laissera des traces indélébiles. Indélébiles. Tout le monde s'en souviendra. Beaucoup plus que d'autres épidémies. Et peut-être plus encore au niveau des traces. Je sais aussi qu'à la maladie, c'est ajouter la douleur. La douleur de perdre un proche sans même pouvoir l'accompagner dans des conditions convenables. C'est pour ça que dès que l'hôpital m'a appelé pour m'annoncer que les visites allaient pouvoir recommencer dans un premier temps à la résidence à Nakinko et dans un deuxième temps à l'USLD, et qu'ils avaient besoin de structures tampons devant l'établissement pour accueillir d'abord les familles pour faire un sas, dans les 24 heures, nous avions posé, ils sont toujours d'ailleurs, nous avions posé les choses pour que les familles puissent tout de suite venir apercevoir ou se rapprocher des leurs qui étaient à la résidence à Nakinko. Je sais aussi que cette crise, socialement, va impacter des milliers de personnes qui vont perdre leur emploi et en perdant leur emploi, perdre leur dignité, au moins pendant un moment important. Mais elle a cependant eu un mérite. C'est le mérite de la création de nouvelles relations, plus solidaires, même si elles sont moins fusionnelles, ce que je regrette moi personnellement, mais moins fusionnelles, mais plus vraies, des relations plus vraies. Avec notre CCAS, nous avons été très attentifs aux personnes isolées. J'ai téléphoné personnellement aux gens pour leur demander de leurs nouvelles, leur demander comment ils allaient. Et c'était pas aujourd'hui. C'était pas parce qu'il y a quelque chose qui s'approche. Maintenant, je ne vais plus oser le faire. C'était à un moment où on était en confinement et où je pensais vraiment que la période électorale était loin de nous. Parce que je n'avais pas imaginé, à titre personnel, et j'avais d'ailleurs donné mon avis, maintien du premier tour, mais attendez pour faire le deuxième tour. J'avais sans doute tort, puisque le gouvernement a décidé de faire l'élection le 28 juin. J'ai plusieurs questions. La préfète de la Creuse le sait et l'a fait remonter d'ailleurs aux instances nationales. Comment fait-on le masque, le port du masque sera obligatoire. Comment fait-on pour empêcher une personne qui ne veut pas mettre de masque de voter, alors que constitutionnellement c'est un droit. Comment pourra-t-on lui dire, même si on lui propose un masque, s'il dit non, et il y en aura. Comment peut-on lui interdire le droit de vote? J'attends la réponse du ministre de l'Intérieur. Comment fera-t-on pour contrôler les cartes d'identité avec un masque? J'ai fait avec d'autres. Et là aussi, tout le monde pouvait venir, la distribution de masques. Et d'ailleurs, j'ai eu du mal à trouver pour compléter les tables. Eh bien, il y a des gens que je connais bien que je n'ai pas reconnus. Donc, qu'est-ce qu'on va leur dire? Montrez-moi votre carte d'identité. Et puis... baissez votre masque pour que je vous reconnaisse. Comment fait-on? Va-t-on trouver des assesseurs? J'ai fait un test. J'en ai appelé...
Oui, vous avez trop loin.
Bravo, monsieur Damien.
Ah, bah absolument, parce que tout le temps que vous dites qu'on ne trouvera pas les assesseurs...
Non, je dis, va-t-on?
Oui, bah on va les trouver.
S'il vous plaît, monsieur Damien, je vous ai laissé parler.
Ah bah absolument.
Parce que vous êtes devenu très agressif depuis quelques temps. Mais c'est pas grave, ça vous regarde. Vous allez les trouver, monsieur Damien. Combien? Votre liste sera sollicitée, monsieur Damien.
Pas de la liste.
Hein? Les listes seront sollicitées. Monsieur Damien, j'ai fait un test.
Mais on est en processus démocratique, il faut terminer, il faut faire ces élections.
Mais
on en a marre de dire que c'est pas possible.
J'ai pas dit le contraire, je dis...
Bon, bah alors, va... Eh bien, alors, en novembre, ce sera peut-être pire.
Monsieur Damien, je vous dis, il y aura des difficultés pour trouver des assesseurs. Je le sais parce que je les ai appelés certains, ils m'ont dit on ne viendra pas. Comme d'autres gens m'ont dit, on ne viendra pas voter.
Ah bah oui, ça c'est sûr.
Voilà. Bon, alors écoutez, laissez-moi vous dire que j'ai fait part des difficultés que le maire que je suis, qui doit organiser les élections, comme il y aura des difficultés pour les services à les organiser, ils sont au bord de l'épuisement, les services de la ville de Guéret. Au bord de l'épuisement.
Donc on ne fait pas la vie démocratique, mais c'est bien. Il faut tout arrêter, les élections.
Et en leur demandant... Vous aimez pas quand on n'est pas de votre avis.
Hein.
Et on leur demande d'organiser des élections alors qu'ils ont 2 mois de rendez-vous à l'état civil et qu'ils vont avoir à organiser. Ils vont le faire. Mais je vous dis que j'aurais préféré qu'ils soufflent un peu. Voilà. Donc, les conditions sont celles-ci. On va le faire. Je disais, j'ai lu par exemple, c'est vous qui l'avez dit. Les salariés qui travaillent à Courtis sont en danger. Pas du tout. Pas du tout. Nous sommes allés les voir, les salariés qui travaillent à Courtis. Ils sont dans des situations... Ils ont des combinaisons qui sont levées. Ils ont des masques, ils ont des pinces pour ramasser. Ils ont des gants. Ils sont pas en danger. Simplement, ils en ont marre de ramasser des tas de choses qui sont à côté des poubelles et que les gens portent n'importe où et ils s'inquiètent. Nous sommes allés les voir. Nous étions 4... Nous sommes allés les voir pour les rassurer. Pour leur dire qu'est-ce que vous voulez en plus. Et c'est pour ça que nous avons décidé de renforcer la surveillance à Courtis. Mais ils ne sont pas en danger par rapport aux équipements qu'ils ont, mais ce que vous avez écrit le laisse penser. Donc, ils ne sont pas en danger, je l'affirme.
Donc on est en danger quand on vient voter, mais on n'est pas en danger quand on ramasse des gants et qui sont éventuellement contaminés. Bon,
d'accord. Mais quand on ramasse des gants qui sont contaminés, qu'on ne les touche pas, qu'on les prend avec des pinces...
Heureusement qu'on protège nos salariés, ça c'est sûr.
Donc ils ne sont pas... Non mais ça veut dire que le maire de Guéret accepterait que des salariés travaillent et qu'ils mettent leur santé en danger. Non, ils ne le sont pas.
Absolument, heureusement.
Voilà. Donc je tenais aussi à préciser ça. Et pardon d'avoir eu tout ce que j'avais à vous dire, monsieur Damien, vous avez la parole. Si vous souhaitez, vous pouvez la prendre. Je termine en disant quand même, j'ai un espoir. Mon espoir, il est pour l'hôpital public. Je ne suis pas le seul, mais depuis des années, je dénonce le système de financement de l'hôpital public et la tarification à l'activité, en expliquant qu'elle n'était pas adaptée pour tous les hôpitaux, qu'elle avait été une forme de progrès, mais qu'elle serait très vite, à partir du moment où on a un système de recettes, de dépenses et de directoires, l'hôpital fonctionne, et avec toutes les formations politiques de droite ou de gauche, ça a commencé sous Sarkozy, et ça a continué après, l'hôpital public a été mis en danger. Il a été mis en danger sur son mode de financement qui a entraîné... Enfin, on a tous dénoncé les fermetures de lits. On a dit que ça allait mal se finir, cette affaire. Mais il fallait réorienter, il fallait faire plus d'ambulatoires. Je ne suis pas capable de dire si l'ambulatoire, ce n'est pas une partie de solution, sans doute. Mais nous avons dénoncé le mode de financement. Monsieur Damien, vous aussi, vous l'avez fait, de l'hôpital public. Nous avons indiqué ça. J'espère... que ce qu'a la crise, ça a été dit tout à l'heure, il y a eu des manifestations, les gens ne manifestent pas pour se faire plaisir. J'espère au moins que ça va servir à l'hôpital public, à la fois pour ses équipements, à la fois pour son investissement, à la fois aussi pour les investissements qu'il a à faire, et enfin qu'il y aura une véritable politique des salaires décentes à l'hôpital public. Je n'ai pas inventé ça, je le dis, d'autres le disent, je le dis depuis 15 ans. Inlassablement, comme je défends la commune, inlassablement, depuis autant de temps, et que je continuerai à le faire demain, parce qu'elle ne doit pas être cette commune, elle doit avoir toute la puissance qui est la sienne, toutes les actions qui démarrent de la commune sont des actions au service de la population. Je ne changerai pas d'avis là-dessus, j'ai même l'intention de dire à des moments importants comme celui qui vient, ce que je pense de la commune et quelle est ma vision de la commune. Je pense que d'autres diront tout ce qu'ils ont à dire et moi je le dirai aussi et je le dirai fortement. Voilà ce que je voulais vous dire, mais comme j'ai été long et que j'avais à m'expliquer puisque j'avais lu qu'il fallait que je donne des explications, j'espère que les explications que je vous ai données vous ont convaincu que, en jouant comme ça, c'est l'ensemble de notre conseil municipal que j'ai mis en valeur et pas Michel Vernier, ce n'était pas mon objectif. Je suis fier de la politique que nous avons mise en place tous ensemble, sociale, culturelle, scolaire, éducative, et il y en a d'autres. Je suis fier de ce que nous avons fait tous ensemble. Je suis content, il y aura encore un conseil, mais content d'avoir fait avec vous tous, sans exception. Quel que vous soyez, et croyez-moi, même quand c'est dur, il n'y a pas de problème, il faut savoir regarder les choses en face, et ça va mieux. Voilà, mes chers amis, vous avez tout à fait le droit, je vous redonne la parole, si vous le souhaitez. Bien, il y a deux questions. Alors, il y a une question... écrite et une question orale. Donc je lis la question écrite, peut-être monsieur Gipoulou si vous voulez, puis elle est toujours là, oui elle est toujours là, je la vois.
Ah oui, mais de toute façon vous avez répondu.
C'est si bon, très bien. Donc je mettrai par écrit les choses, puisque c'est une question écrite, hein.
Oui, tout à fait, merci.
Je me dois ça au respect du groupe, que vous êtes encore pour quelques semaines. Je vais le faire très vite, avec quelques chiffres. Et M. Gipoulou souhaitait poser une question orale.
Oui, au nom du groupe Guerre de Gauche, donc nous souhaitions vous poser la question de concrètement de la continuité du suivi de ce dossier. Notre groupe, donc à savoir qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation où on voit qu'on peut légitimement se poser à nouveau la question de la répétition des problèmes d'approvisionnement en eau. Et la question à poser, celle-là, notre groupe souhaiterait savoir quelle suite a été donnée à notre proposition donc municipale de convention de subdélégation de l'eau suite au transfert de compétences lié à la loi Nautré, pour laquelle nous avions voté, dans l'intérêt des Guéretois. Dans une période où la faiblesse des précipitations nous fait craindre la réédition des épisodes secs, nous souhaitons connaître le dispositif qui permettrait de piloter une éventuelle nouvelle pénurie.
Donc moi, en tant que maire, et d'une manière très neutre, à ce jour, nous n'avons l'agglo jusqu'au 30 juillet. Je me retourne vers ceux qui ont les dates précises. 15 juillet. Serge, tu connais toi. Voilà. La réponse doit être donnée à cette demande de subdélégation par la communauté d'agglomération. Communauté d'agglomération qui travaille sur le sujet, par ailleurs je le précise, mais à la question précise de la ville des Guérets qui redemande la subdélégation doit être donnée avant fin juillet. Faute de quoi, pour l'instant, je n'ai aucune réponse. Alors, ce que je peux vous dire aujourd'hui, la consommation, parce que plus de compétences, mais ça n'empêche pas d'interroger, la consommation d'eau sur la ville aujourd'hui est de 24 000 mètres cubes jour. 2400. La production des sources est autour de 3008, nos sources Maupuy. Mais par contre, donc on a une production qui est soutenue là pour l'instant. Par contre, la gare Tampes nous inquiète beaucoup, s'il y en a même. Donc la station de Courtille ne fonctionne pas. La gare Tampes donne beaucoup de préoccupations parce que son débit est très très fluctuant. Il suffit elle remonte avec les orages, mais elle redescend très très vite en 48 heures. C'est-à-dire que si on avait besoin de la gare Tampes, on serait très vite en difficulté. Alors après, moi je n'ai plus le contact direct. Je vois les gens de la Sœur, donc quand je les vois, je leur pose la question parce que je ne veux pas rester dire écoutez, c'est plus moi, c'est la glo, je m'en fous. Non, je m'en fous pas. Donc voilà, aujourd'hui, en tous les cas, j'ai eu. Avec Serge d'ailleurs, parce qu'on a regardé ça tous les deux, on avait quelques inquiétudes il y a 15 jours. Parce qu'il y a 15 jours, la consommation était 2800 m3 sur Guéret. Et là, on commençait à être inquiet parce qu'elle était largement supérieure, et alors que les lycées, collèges et écoles étaient fermés. Donc on s'est dit si ça, quand les lycées, collèges et écoles augmentent, je pense qu'il y a des gens qui ont dû remplir leur piscine, qui ont dû faire vidanger et prendre leurs précautions. Oui, monsieur Correa.
Non, mais heureusement que le maire de Guéret s'intéresse effectivement à la consommation d'eau. Donc, il suffit de téléphoner à la personne à qui l'agglo suit ça, qui en plus suivait la ville de Guéret avant. Donc, c'est plutôt assez simple. Pour avoir les.
Plus fort, monsieur Correa, demande Cécile Lemay.
Donc, pour avoir les explications, juste dire effectivement le délai il sera respecté, soit par l'exécutif actuel ou le prochain exécutif pour donner la réponse par rapport à la question posée, mais de rappeler que par rapport à la question posée, je crois qu'il faut, c'est pas forcément utile de faire peur aux gens par rapport à ça. Par contre, de dire continuer à faire attention sur l'utilisation et la consommation d'eau, comme cela avait été fait d'ailleurs l'an dernier. par rapport aux douches, par rapport à un certain nombre de pratiques, il faut absolument effectivement continuer, y compris des pratiques au sein de la ville, des pratiques vertueuses, mais ça je n'en doute pas, elles sont suivies, hein, comment on arrose à partir de l'eau de récupération, pas forcément l'eau potable, etc. Donc ce travail-là continue, je n'en doute absolument pas au sein des services de la ville, mais continuer à avoir ces actions-là vers la population citoyenne, et puis de rappeler qu'effectivement les obligations pour la ville de Guéret, elles sont liées à un délégataire, comme ça s'est passé l'an dernier, parce qu'il n'y avait pas non plus, avant les problématiques de l'an dernier, de plan précis face à la sécheresse. Le délégataire a la responsabilité de fournir, bien évidemment. Il prend un certain nombre de décisions, à l'époque, en lien avec le maire, c'est clair. Et demain, si le souci sera le même, ça sera pris en lien avec les services compétents, sans oublier le maire de la commune, c'est clair aussi. Je rappelle que le conseil d'exploitation est composé de tous les maires, il se réunira bientôt. Voilà, mais le délégataire a une obligation par rapport à tout ça, il le suit, il le fait, et en lien avec à la fois les élus de la collectivité qui suivent là, en l'occurrence Jacques Velgue pour la communauté d'agglomération, mais il est bien évidemment que le maire doit, quelle que soit la commune, mais certes Guéret a connu quand même un moment difficile, le maire sera tenu au courant et informé et participera aux choses. Mais vous voyez que depuis le 1er janvier, la compétence est passée à l'agglo, et je crois qu'il y a toujours de l'eau au robinet à Guéret.
Il y a toujours eu de l'eau au robinet à Guéret. Même dans les moments.
Il y en a toujours eu, même dans les moments difficiles, effectivement.
Oui, M. Giboulou. C'était pas ça la question. C'était
oui.
La subdélégation. Nous n'avons pas de réponse sur la subdélégation.
C'était la subdélégation, théoriquement. Je me permets
de. Quelles mesures étaient mises en œuvre et la, oui. La question.
Non, c'est tout. Moi, je ne cherche pas.
Oui, non, sur le sujet. Alors, du coup, c'est vrai que théoriquement, les questions posées ne donnent pas lieu à débat, mais puisqu'il y a débat, je y participe volontiers. Moi, j'entends les propos rassurants. Ceci dit, à un moment, nous avions eu un débat par rapport à cette question. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser quand même qu'il y a de la rétention sur ce sujet parce qu'au fond, il n'y avait pas d'accord sur la décision qui a été prise et que quelque part, le fait de ne pas avancer, le fait de ne pas donner suite. Moi, je veux bien qu'on aille jusqu'au bout de la fin de la partie pour voir si finalement on va donner quelque chose. Mais franchement, et après on peut dire, oui, faites attention avec le robinet, les gouttes, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Il faut prendre de front, il faut prendre vraiment la question telle qu'elle a été posée par un organe qui avait la possibilité de la poser. Et il faut pas jouer la montre pour se dire en espérant que tout ça ne pose aucun problème à la fin. Moi, je suis désolé. La réponse de bon sens, il ne faut pas faire peur. Mais bon sens, c'est sérieux, l'eau. C'est sérieux. Et quand une commune demande, oui, mais c'est votre réponse qui m'inquiète, finalement, plus que le reste. Moi, je pense qu'il ne faut pas prendre cette question à la légère. Une question a été posée. Moi, je trouve absolument anormal qu'on nous pousse jusqu'à la fin du délai pour répondre à la question. C'est pas sérieux. C'est pas comme si on n'avait pas eu un problème l'année dernière.
Je ne sais pas qui n'est pas sérieux. Il y a un conseil d'exploitation qui est prévu. Le 2 juin. Je vous rappelle qu'il y a une petite période délicate là qui n'était pas encore terminée d'ailleurs, comme l'a rappelé Monsieur le maire.
Gouverner, c'est prévoir.
Waouh ! Alors là, c'est magnifique, superbe, grandiose, vraiment responsable. Donc je termine, aucun intérêt par rapport à ça. Un conseil d'exploitation est bientôt prévu, qui rassemble effectivement les maires. Le travail de recollement des transferts a été fait. En tous les cas, si demain une délégation devait être renouvelée à la commune, moi je ne sais pas quelle sera la décision. Je pense que comptablement, le mieux serait au 1er janvier 2021. Ça aussi est évoqué, parce qu'il y a aussi toutes les conventions à discuter, tout ça. Je rappelle que ça a été 2 mois et demi de travail pour les services de l'agglo de recoller toutes les budgets annexes et de les recoller dans les budgets. Donc, si vous avez suivi un petit peu, vous êtes au courant. Voilà, donc il y a tout ce travail-là qui sera fait avec aussi les services de la ville, si ça devrait être rétrocédé. Mais en tous les cas, il ne faut pas mélanger la problématique de la réponse et du suivi de l'eau avec la problématique, effectivement, de la diminution. C'est suivi, c'est prévu, les services le font. Le vice-président est sur le fond tous les jours, surveille par rapport à ça. Donc là encore, voilà, c'est quelque chose de très sérieux, je suis d'accord. C'est pris en compte au sein des services de l'agglo, c'est pas pour qu'il le suit en direct. Je n'ai pas forcément toutes les compétences par rapport à ça. Il y a des gens qui sont très pointus là-dessus, c'est suivi. Et c'est suivi quel que soit le mode de gestion, que ce soit en délégation ou en régie. Voilà. Mais en ce qui concerne la réponse, elle aurait pu être donnée. Il y a un délai supplémentaire parce qu'il s'est passé un événement que tout le monde aurait souhaité qu'il ne se passe pas. Voilà. Il faut aussi respecter les salariés de la communauté d'agglomération, s'il vous plaît, monsieur Gipoulou. C'est quand même eux qui, à un moment donné, au fond, aussi, le travail, ils recollent les choses d'une manière claire et transparente pour après savoir si une délégation est redonnée à une ville. Quelles seront les conséquences financières surtout, ça aussi, ça doit être étudié. Et pour être tout à fait honnête, mais vous pouvez renseigner par vous-même, ça fait à peu près 3 semaines qu'ils ont terminé tout le travail de recollement des 25 communes. Voilà. Donc, s'il vous plaît, c'est pas la peine. C'est quelque chose de sérieux, l'eau, elle est prise au sérieux, que ce soit la ville, que ce soit l'agglo, elle est prise au sérieux partout.
Monsieur Gipoulou ?
Oui, de manière très simple, je dirais qu'il ne faut pas... Il ne faut pas ajouter de crise à la crise, il ne faut pas traiter une crise et ensuite tomber dans la seconde. Moi, je vous pose une question très simple. Tout à l'heure, on nous a dit, on a jusqu'au 29 juillet pour nous donner une réponse. Est-ce que vous nous donnerez la réponse le 29 ou avant ?
Mais le 29, je ne serai plus là, monsieur Gipoulou, juillet. Donc, je ne peux pas vous répondre. Il y a un conseil d'exploitation qui a lieu au mois de juin. Ça sera à l'ordre du jour de la discussion. Est-ce que vous pouvez respecter les 25 maires qui seront là à discuter de ça? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Et après, moi je ne sais pas ce qui se passe après le 28 juin, si vous savez, vous. Moi je ne sais pas.
Donc ils n'auront pas de réponse en 28 juin. C'est ça votre réponse?
Je vous dis qu'il y a un conseil d'exploitation le 2 juin. Est-ce que... Enfin, je ne sais pas comment le dire. C'est à l'ordre du jour. Le conseil d'exploitation émettra un avis. C'est à l'ordre du jour. Donc... Peut-être qu'il y aura au Conseil communautaire de juin une proposition. Peut-être pas, mais je ne peux pas préjuger d'une réunion qui n'a pas encore eu lieu.
Enfin, ce que je sais, hein, par rapport à... Et là, moi, je reviens à l'eau. La situation d'aujourd'hui ne garantit pas une situation très difficile bien avant le 29 juillet. Bien avant le 29 juillet, je parle de la situation de l'eau, c'est-à-dire que la production des sources d'aujourd'hui, en un mois, peut baisser de manière considérable et qu'on soit en situation comme l'année dernière. Et je le crains. Je le crains de toutes mes forces, mais j'accuse personne. Ce n'est pas plus la faute de l'AGO que la faute de la ville. En tous les cas, si ce qui est dit par les météorologues et tout, et qui correspond aux choses climatiques. Moi, j'ai redit ça, je suis tranquille, parce que j'ai redit au conseil départemental quand est-ce qu'on avance aussi tous ensemble, parce que c'est pas dit qu'on revivra pas. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de souci, mais c'est pas dit qu'on revivra pas avant le 29 juillet, date limite, voilà, une situation difficile, hein, c'est pas dit. Mais l'agglo la gérera, la situation difficile. Voilà.
L'agglo lâchera en lien avec le maire. Enfin, est-ce que si demain une délibération était prise pour redonner la compétence à la ville, de Guéret peut éviter éventuellement une sécheresse? Bon, à un moment donné, il faut parler de l'eau. Est-ce que si demain il y a un problème de sécheresse, elle ne sera pas gérée comme elle a pu l'être auparavant entre le maire, les collectivités, l'agglo, les services compétents? Bien évidemment, j'ose espérer que le maire de Guéret sera capable de travailler avec les services de l'agglo pour pouvoir suivre ce problème, quelle que soit la collectivité qui le suit. Monsieur, quand même, à un moment donné, il faut différencier les choses. Donc merci, monsieur le maire, de rappeler effectivement qu'il faut quand même un moment dissocier les choses et que le meilleur moyen de sécuriser les problèmes d'approvisionnement de l'eau de Guéret, c'est effectivement le syndicat départemental, avec la sécurisation qui pourrait être prise sur la Creuse et avec des travaux d'investissement à faire. Voilà.
Monsieur le président de l'agglomération, ne vous faites pas de soucis, je ne serai pas le maire de Guéret d'ailleurs, à ce moment-là, donc... Je peux en parler tranquillement.
Ma mère ou...
Oui, mais je ne serai pas, donc je ne parle pas pour moi.
Hein. On est peut-être un peu hors sujet, là, quand même.
Mais, non, pas du tout. Mais non seulement le maire de Guéret, quel qu'il soit, aura l'obligation de le faire, parce que les habitants de Guéret, c'est là qu'ils viendront, et pas à l'agglo. Donc,
bien sûr.
Moi, je sais quelle est la place que l'agglo doit avoir, et je sais aussi quelle est la place que la commune doit avoir.
Ah, oui.
C'est d'ailleurs pour ça que j'ai demandé la subdélégation.
Ouais, mais je rappelle que... Voilà. Je t'arrêterai là-dessus. L'agglo n'a rien demandé de ce vote qui a été fait à l'Assemblée nationale. Voilà. D'accord.
Non, ça c'est nul. Il y a possibilité de subdélégation. Point. Il faut arrêter là. Il faut arrêter de parler de la loi, du truc. La loi a été modifiée. Une subdélégation a été demandée à l'AGGLO. Elle a une réponse à donner. Le maire que je suis actuellement est content d'avoir demandé cette subdélégation pour la bonne et simple raison que l'eau soit se gérer au plus près des habitants et que la commune est le meilleur endroit pour gérer l'eau sur la commune. Je renouvelle ma position, et au long de cette campagne qui vient, je n'ai pas fini de parler de ça. Voilà. Monsieur Damien.
Non, juste deux mots. Enfin, je voulais vous féliciter sur les propos d'avant, parce qu'il y a, je sais pas, il y a une manipulation politique là, d'associer la subdélégation au fait que la sécheresse serait mal gérée sur Guéret. C'est deux choses tout à fait différentes. Que la question soit posée, où en est la délibération de délégation, c'est légal, il faut qu'il y ait une délibération, ça c'est clair. Bon, je ne vois pas pourquoi, admettons que demain la subdélégation soit effective, comment ça arrangerait effectivement la question de sécheresse sur la ville. Donc là, il y a tout à fait un amalgame. Après, bon, effectivement, sur vos derniers propos, je ne peux pas être d'accord, mais ça, on ne va pas relancer le débat.
Nous n'avons pas la même conception de l'agglomération et de la commune.
Non, mais c'est pas une question d'agglomération. C'est pas une question d'agglomération. Si vous avez bien écouté mes propos préliminaires, si on veut effectivement anticiper les questions de sécheresse, c'est bien sur un bassin versant qu'il faut gérer l'eau et pas sur une limite communale, puisque la goutte d'eau, elle n'a pas du tout de limite administrative. Bon, voilà, mais on va parler de ça.
Il y a des solutions guérétoises, vous le savez. Oui, monsieur Thomas.
Je vais être très court. Je souhaite bon courage à ceux qui vont nous.
Daniel Vincent, et puis alors,
moi je vais. Non, je ne vais pas clore, mais je vais faire la béotienne que j'ai toujours été, surtout au sujet de l'eau. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment une réunion qui va se tenir le 2 juin, on ne peut pas avoir une réponse avant au prochain conseil municipal. J'arrive pas à comprendre, moi. Pourquoi on ne peut pas avoir une réponse sur cette subdélégation? Pourquoi il faut encore attendre? D'ailleurs, de toute façon, moi, je serai plus là. D'autres seront plus là.
C'est pas décisionnaire, le conseil d'exploitation.
Mais qui dit qu'il n'y en aura pas?
De quoi?
Mais qui dit qu'il n'y aura pas de décision?
Ben, s'il y a une décision, c'est formidable. Moi, je trouve que ça serait bien qu'on en soit.
Le conseil d'exploitation va émettre un avis.
Moi, ce qui me surprend, c'est.
Je veux dire, à un moment donné, les maires doivent quand même être consultés et donner un avis.
Attends, Eric, laisse-moi juste finir. Moi, ce qui me surprend, c'est chaque fois qu'on aborde ce sujet, il y a un silence complet de la part de certains. Et puis nous, alors moi qui ne suis pas bien au courant, je me dis, enfin, pourquoi on n'arrive pas à trancher là-dessus? Il y a une demande, c'est réglementaire, la loi le permet maintenant. Bon, moi je n'ai pas de point de vue, j'ai bien compris, la compétence elle était à l'agglo, ça j'ai tout compris. Vous l'avez développé, nous l'avons développé, nous l'avons voté, et on n'arrive pas à en sortir. J'arrive pas à comprendre ça. Enfin, c'est quand même la démocratie qui devrait vivre là. Normalement, on devrait pouvoir apporter une réponse aux guérétois. Oui ou non, est-ce qu'on a cette subdélégation? Moi, je ne sais pas si. Je suis pas pour, je suis pas contre. Je veux savoir oui ou non. C'est tout. C'est tout simple, c'est bête, mais c'est ce que je demande.
Bien. Allez, monsieur Coréen, et puis on termine.
En quoi la démocratie serait bafouée? Parce qu'aujourd'hui.
Tu veux parler, Cécile?
Les collectivités.
D'accord. Oui.
Travaillent. D'accord, les agents travaillent. Je dis, il y a à peu près 3 semaines, tout a été fini de recoller. Et après, la décision elle sera prise par les élus de subdélégation ou pas. Il y a un conseil d'exploitation qui est prévu avec tous les maires, qui émettra un avis. Eh bien oui, mais qui a dit qu'il n'y en aurait pas? Le problème, c'est que certains en font un problème politicien, alors que c'est un problème politique de vision de l'eau, où oui. on peut ne pas être d'accord, c'est pas le souci.
Oui.
Mais il y a deux choses. Il y a la problématique de la gestion de l'eau, et effectivement, comme le dit Jean-Bernard, comment on voit ça, etc. Voilà, il y a ça. Et puis après, le problème politicien, à un moment donné, parce qu'il y a des élections. Arrêtons.
Non.
Arrêtons.
Non. Cécile Lemaigre veut dire un mot, mais il n'y a pas un problème politicien parce qu'il y a des élections. Il y a 6 mois que c'est posé et demandé. Cécile.
Oui, juste un petit mot, parce que j'entends bien s'il y a des problèmes de sécheresse. J'entends beaucoup de si. Mais en fait, moi je suis assez étonnée qu'on ne dise pas qu'il va y avoir des problèmes de sécheresse.
Tu as raison, il va y avoir des problèmes de sécheresse.
On va dire des si tous les ans, tous les 2 ans, tous les... Enfin, ça revient à chaque fois. Donc maintenant, il faut y aller.
Oui.
Voilà.
Très bien, merci. Nous avons compris que le travail était en train de se faire. Voilà. Allez, il y aura un conseil la semaine avant les élections. Le mercredi ou le jeudi, parce que nous avons notre compte administratif à voter. Voilà, merci, bonne soirée.